VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Eric Manila Kidza en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Vous écoutez le monde aujourd'hui, édition du 16 mai 2017, troisième de la soirée. D'abord le sommaire. En Côte d'Ivoire, la vie a repris son cours à Abidjan et Bouaké après 4 jours de mutinerie. Le nouveau Premier ministre de la RDC a présenté son programme devant les députés. Regain de violence à Bangassou en Centrafrique. Plusieurs milliers de réfugiés sont arrivés en RDC. Le président américain Donald Trump a défendu son droit de divulguer des renseignements secrets au chef de la diplomatie russe relatif au terrorisme et la sécurité aérienne. Vos rendez-vous de l'économie et des sports dans une dizaine de minutes. Merci de votre fidélité. En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est félicité d'une normalisation de la situation dans le pays. Des soldats mutinés pendant 4 jours dans plusieurs villes ont accepté l'offre du gouvernement. Ils sont retournés dans leurs casernes pour toucher un reliquat de primes promises. Narita Namasté.
Les soldats mutinés de Bouaké et de plusieurs grandes villes de la Côte d'Ivoire ont accepté mardi l'accord annoncé la veille par le gouvernement ivoirien, permettant de mettre un terme à 4 jours de mutinerie dans plusieurs casernes de Côte d'Ivoire. Les militaires ivoiriens qui regagnent les casernes ont fait place mardi matin aux policiers, gendarmes et douaniers au corridor sud et nord de Bouaké, où la circulation est fluide. À Korogo au nord, à Man à l'ouest, à Bondoukou à l'est, le constat est le même. Ici à Abidjan, précisément dans le quartier administratif et des affaires du plateau, les activités reprennent timidement. Plateau n'affiche pas son ambiance habituelle. Les rues sont loin d'avoir retrouvé leur activité habituelle. La population observe avant de sortir. Lundi soir, le ministre de la Défense, Alain Richard Dovahi, avait annoncé avoir trouvé un accord, mais sans en préciser les modalités. Une conférence de presse du ministre de la Défense est attendue cet après-midi dans la capitale économique ivoirienne, sans doute pour faire le point de cette mutinerie et le contenu de cet accord. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
Investiture à Kinshasa du nouveau Premier ministre dans son costume de chef du gouvernement de la RDC. Bruno Tshibala a promis la tenue des élections dans les délais. Les détails de Eddie Isango.
Bruno Tshibala a présenté son gouvernement et son programme devant l'Assemblée. Quelques députés du rassemblement dont il est issu ont boudé, mais il a été applaudi par d'autres membres du Parlement. Je tiens à affirmer devant la représentation nationale l'ambition, la volonté et la détermination d'offrir au peuple congolais les meilleures élections de son histoire dans les délais convenus, a-t-il déclaré au cours de l'audience radio-télévisée. Il a toutefois rappelé que l'organisation des élections relevait de la Commission électorale nationale indépendante. Mais la CENI avait déjà prévenu que les élections ne pouvaient pas se tenir avant fin 2017, comme convenu dans l'accord politique signé le 31 décembre. L'ancien compagnon de lutte de l'opposant Étienne Tshisekedi a aussi promis d'organiser des funérailles dignes de sa personne. Monsieur Tshisekedi est décédé le 1er février, mais son enterrement est toujours l'objet d'une querelle entre sa famille politique et les autorités de Kinshasa.
Eddie Isango, de nouveaux réfugiés centrafricains en RDC, ils sont plusieurs milliers à s'installer dans les provinces de Bas-Uele et Nord-Ubangi dans le nord du pays. Le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés a qualifié cet afflux de massif. Ils ont fui un regain de violence dans la ville frontalière d'Obangassou. Ces affrontements ont fait 130 morts selon des médias locaux. En l'espace d'une semaine, ces casquets bleus ont également trouvé la mort à Bangassou à la frontière avec la RDC. Au Nigeria, 2 éleveurs de bétail ont été tués, 7 blessés dans une attaque suicide menée par 3 femmes kamikazes dans le nord-est du pays et 4 employés maliens du Comité international de la Croix-Rouge ont été relâchés au bout d'environ 24 heures de leur captivité. Ils avaient été kidnappés dimanche soir dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Au moins 4 personnes tuées aujourd'hui au Kenya, leur véhicule a heurté un engin explosif improvisé à l'est dans la ville de Liboi, frontalière avec la Somalie. La police soupçonne les islamistes Shabab. En Ouganda, Stella Nyanzi, une militante des droits de l'homme, a ravivé la polémique dans de nouvelles attaques au langage cru contre Yoweri Museveni et son gouvernement. Poursuivi pour outrage au présent, l'activiste et universitaire attend son procès moins d'une semaine après sa remise en liberté provisoire. En Éthiopie, Yonatan Tesfaye, ancien porte-parole d'un parti d'opposition au régime d'Addis Abeba, a été jugé coupable d'incitation au terrorisme. C'est en raison de commentaires postés sur son compte Facebook accusant la coalition au pouvoir d'user de la force contre le peuple plutôt que de privilégier le dialogue pacifique avec le public. Il risque une peine possible de 10 à 20 ans de prison. Un Libyen arrêté fin 2015 dans l'enquête sur le meurtre d'une policière britannique en 1984 devant l'ambassade de Libye à Londres a été libéré faute de preuves permettant de le traduire en justice. Les vols d'Air Algérie ont commencé à reprendre après plusieurs heures de suspension aujourd'hui. L'ouverture de négociations entre le personnel de maintenance gréviste et la direction de la compagnie aérienne a débloqué la situation. Selon la radio publique, un document est en préparation pour être signé par les deux parties.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Accusé d'avoir été trop bavard avec le chef de la diplomatie russe, Donald Trump a revendiqué aujourd'hui le droit de partager des renseignements avec Moscou pour que le Kremlin s'implique davantage dans la lutte contre le groupe État islamique. Le point avec Idriss Fall.
En tant que président, je voulais partager avec la Russie, comme j'en ai absolument le droit, des faits concernant le terrorisme et la sécurité aérienne, a écrit Donald Trump sur Twitter. Le chef de l'exécutif américain dit l'avoir fait pour que Moscou renforce nettement sa lutte contre le groupe État islamique. Il a dénoncé à nouveau les fuites venant, selon lui, du monde du renseignement qu'il a souvent critiqué. Selon le Washington Post, M. Trump a, lors d'une rencontre à la Maison-Blanche avec Sergueï Lavrov, évoqué des informations ultra-sensibles. Le général McMaster, qui dirige le Conseil de sécurité nationale, a assisté à la réunion, a démenti sans toutefois contester que des informations classifiées aient été divulguées par le président américain. Selon le général, messieurs Trump et Lavrov ont passé en revue les menaces posées par des organisations terroristes, y compris les menaces sur l'aviation civile. De son côté, le Kremlin a qualifié cette affaire de grand n'importe quoi.
Idriss Fall, Donald Trump se rendra à Bethléem dans les territoires palestiniens occupés au cours de son premier voyage à l'étranger durant lequel il doit également faire escale en Arabie Saoudite, en Israël et au Vatican, affirmé aujourd'hui son conseiller à la sécurité nationale. Signalons que Donald Trump a accueilli aujourd'hui à la Maison-Blanche son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. C'était un premier tête-à-tête délicat sur fond de désaccord sur la question des milices kurdes. Nouvelle tension entre les États-Unis et la Syrie. Washington accuse Damas d'avoir eu recours à un crématorium pour faire disparaître les corps de prisonniers assassinés par le régime. Les précisions avec Dilidico.
Les États-Unis ont accusé le régime du président Bachar al-Assad d'avoir brûlé dans un crématorium une partie des milliers de prisonniers assassinés au cours de ces dernières années. Washington a ensuite exhorté la Russie à faire pression sur son allié syrien pour qu'il mette fin à ces meurtres. Damas a rejeté en bloc ces accusations. Le ministère des Affaires étrangères a qualifié ces allégations de totalement infondées et de scénarios hollywoodiens. Les accusations américaines sont fondées sur un rapport, photo satellite à l'appui, d'Amnesty International qui n'évoque pas de crématorium. Par ailleurs, les pourparlers indirects de Genève se compliquent par le refus des deux délégations de se parler face à face. Staffan de Mistura, l'envoyé spécial de l'ONU, s'est entretenu ce matin avec la délégation du régime, conduite par l'ambassadeur syrien aux Nations Unies. Ensuite, le médiateur a rencontré les représentants de l'opposition.
Les pourparlers de paix sur la Syrie ont repris aujourd'hui à l'ONU. 5 séries de pourparlers indirects ont été organisées depuis 2016 sur les bords du lac Léman par l'envoyé spécial de l'ONU, Staffan de Mistura, mais sans résultat. Les deux délégations ont chaque fois refusé de se parler face à face. Lutte contre le groupe État islamique en Irak, les forces de Bagdad ont repris Près de 90% de Mossoul Ouest est dans le nord du pays. Des responsables affirmaient que cette organisation terroriste est sur le point de connaître une défaite totale dans la deuxième ville du pays. Deux manifestants de 17 et 33 ans sont décédés au Venezuela, portant le bilan à 41 morts en 6 semaines de protestations pour exiger le départ du président socialiste Nicolas Maduro. En France, le président Emmanuel Macron et son premier ministre Édouard Philippe ont reporté à demain la présentation du nouveau gouvernement. Un communiqué de l'Élysée précise qu'ils ont voulu permettre la vérification des situations fiscales et des éventuels conflits d'intérêts des futurs ministres. Une commission parlementaire italienne ayant enquêté sur les ONG affrétant des navires de secours au large de la Libye a recommandé aujourd'hui que des policiers soient présents au moment de leurs opérations de sauvetage de migrants. Pour mieux lutter contre les réseaux de passeurs, les enquêteurs doivent débuter en mer où des preuves fondamentales peuvent être éliminées, a expliqué Nicolas Latorre, président de la commission défense du Sénat, lors de la présentation du rapport d'enquête. C'était votre journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Jacques Aristide nous présente la chronique de la Muniteco pour voir ce qui se passe en économie sur votre continent africain.
La Banque africaine d'import-export va investir jusqu'à 500 millions de dollars en Gambie, annonce du patron d'Afreximbank, Bénédicte Orama, après une rencontre hier à Banjul avec le président Adama Barrow. Afreximbank veut aider à remettre la Gambie sur les rails après le départ de nombreux investisseurs et le fléau de fraude généralisé sous l'ancien président Yahya Jammeh. L'argent sera consacré au tourisme, aux infrastructures et à l'agriculture. Les opérateurs économiques en Côte d'Ivoire font le bilan des dernières mutineries qui paralysaient plusieurs villes du pays. La Bourse régionale des valeurs mobilières, le marché financier de l'UEMOA, basé à Abidjan, a clôturé en nette baisse hier, soit son niveau le plus bas depuis le début de l'année. Les banques et leurs clients ont également été affectés après la demande de l'association des banquiers de rester fermés hier. Mais bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, les prix de la fève tendent à s'améliorer. L'économie tunisienne a enregistré une croissance de 2,1% au premier trimestre par rapport à la même période il y a un an, un niveau jamais atteint depuis début 2015 dans un pays confronté à de grandes difficultés économiques et sociales. Ce chiffre est dévoilé quelques jours après l'annonce par le président Béji Caïd Essebsi d'un recours à l'armée pour protéger les sites de production dont l'accès est parfois bloqué par des manifestations.
De l'économie, nous enchaînons avec les sports. Ce soir, Nicolas Pinault, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence avec le football. Manchester United prévoit des revenus records.
Et oui, Manchester United a élevé ses prévisions annuelles de rentabilité et de chiffre d'affaires attendues à un niveau record à l'issue d'un trimestre de janvier à mars, marqué pourtant par des pertes sur fond d'inflation des salaires pour le club mancunien. Le club de première ligue anglaise a expliqué dans un communiqué qu'il prévoyait désormais de dégager à l'issue de la saison un bénéfice brut opérationnel entre 218 et 230 millions d'euros. Les dirigeants mancuniens ont aussi relevé la prévision de chiffre d'affaires du club qui pourrait atteindre de 560 à 570 millions de livres sur l'exercice entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin de cette année, contre 530 à 540 millions attendus jusque-là.
Et Nico, on reste en Angleterre avec ses matchs en retard, n'est-ce pas ?
Et oui, l'autre Manchester City tentera de garder son avance sur Arsenal dans la course à la Ligue des Champions, alors que les deux équipes s'affrontent à distance ce soir lors des derniers matchs en retard du championnat d'Angleterre. En cas de victoire des deux équipes ce mardi, tout se jouera dimanche lors de la dernière journée. Et Liverpool, troisième avec 73 points et un match en plus, entrera alors dans la danse. Une défaite éliminerait Arsenal, sauf si Manchester City s'incline également.
Enfin, la NBA, championnat de basket nord-américain, Boston en finale.
Oui, après une série extrêmement disputée contre Washington, ce sont les Boston Celtics qui ont décroché sur leur parquet, qui ont gagné le droit d'affronter le champion en titre Cleveland en finale de la conférence Est de la NBA. Boston a remporté 115 à 105 le septième et dernier match de la demi-finale de conférence, finalement bouclé 4 victoires à 3. Boston jouera une finale de conférence pour la première fois depuis 2012 et recevra lors du premier match, ce sera demain. Mais les Celtics de Boston auront le lourd privilège de se mesurer à Cleveland, le champion en titre qui a non seulement survolé les playoffs en ne perdant pas le moindre match en deux séries, mais qui a eu surtout plus d'énergie pour se préparer à cette finale.
Merci Nicolas. De retour avec vous Eric Manilakiza en direct du studio 92 La Voix de l'Amérique à Washington pour aborder la seconde partie de votre édition. Première destination, la Côte d'Ivoire, où les soldats mutins qui ont semé le trouble pendant 4 jours pour le paiement de primes ont cessé leur mouvement aujourd'hui. Après la conclusion d'un accord avec le gouvernement, la situation est revenue à la normale dans les principales villes Abidjan et Boaké. Ibrahim Tonkara, notre correspondant à Abidjan, revient sur l'impact économique pendant les 4 jours de paralysie.
À Adjamé, le principal carrefour commercial du pays et où se trouve l'un des plus grands marchés à ciel ouvert de la sous-région, ces 4 jours des mutineries ont été un véritable calvaire pour les commerçants.
Hier, lundi, c'était pas trop stable, mais aujourd'hui, apparemment, ce matin, il n'y a rien là, ça va. Bon, les clients viennent, quand c'est comme ça, c'est pas facile, hein. Tout le monde attend d'abord, peut-être dans l'après-midi, pour que, si les trucs s'améliorent d'abord, avant que les gens sortent, plus au moins, un peu, quoi. On voit pas les clients.
Il n'y a rien, les clients viennent, il n'y a rien entre. En tout cas, aujourd'hui, ça va pour le moment, ça va.
Moi, je fais rentrer la marchandise de Lomé, Abidjan, Accra, Abidjan. Pour le moment, ça va même pas. Hier, j'ai un camion qui devait rentrer sur Noé. À cause de la mutinerie, le chauffeur m'a fait pour laisser le camion. Bon, il y a trop de problèmes, sincèrement.
Au plateau, centre des affaires, le constat est le même. Les boutiques qui ont ouvert leurs portes attendent d'éventuels clients.
C'est dur, c'est bloqué. Depuis le matin, on est assis, on ne reçoit personne. Quelques-uns passent. J'espère qu'avec le temps, ça va aller. Il n'y a pas de clients.
De nombreux camions transportant des marchandises, dont des denrées périssables, sont restés bloqués pendant des jours au corridor de Boaké. Pour le président de la Fédération des commerçants des Côtes d'Ivoire, le préjudice est énorme. Farikous Maoro estime à plusieurs milliards les pertes enregistrées par les commerçants. Préjudice énorme également chez les transporteurs, contraints de réduire le trafic routier.
Les clients, ils ont peur, chacun reste chez eux. Le peu qui vient pour se déplacer pour les affaires, on est obligé de les prendre pour les envoyer chez eux. Ce qui est sûr, la clientèle est coupée. C'est arrêté complètement même. La clientèle ne vient pas, eux, ils ont peur, chacun est chez soi.
Touré Adama, président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire.
Les armes de Boaké, ça fait depuis le jeudi pratiquement. Nos véhicules sont bloqués. Tous les véhicules qui sont quittés au Mali, au Burkina et dans les zones vides de l'intérieur du pays, Korogo, Bundiali, Serke, tout ça, sont bloqués. Nos passagers aussi souffrent. Nous sommes victimes de raquettes, d'humiliation et de toutes sortes de bastonnades pour certains chauffeurs qui essaient de faire des voies contournées. Vraiment, c'est déplorable.
4 jours de tension donc que les opérateurs économiques en Côte d'Ivoire n'oublieront pas de sitôt. Georges Ibrahim Tonkara, Abidjan, VOA Afrique.
Dans Washington Forum ce jeudi, on décrypte la récente vague de mutineries en Côte d'Ivoire. Des tirs à Boaké, Abidjan et Korogo. Après des négociations difficiles, un accord a été trouvé entre état-major et mutins. Le bras de fer reste intense entre ces militaires et le gouvernement. Qui sont les mutins? Que veulent-ils? Où en est la réforme de l'armée? L'État ivoirien a-t-il réglé définitivement cette crise? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h TU avec Tatiana Mosso et ses invités.
En Centrafrique, un calme précaire règne à Bangassou après les récentes violences, des combats entre groupes armés Séléka pro-musulmans et Antibalaka majoritairement chrétiens secouaient cette ville du sud-est du pays, frontalière de la RDC. Selon la MINUSCA, 26 personnes ont trouvé la mort, 32 autres blessées côté population. Le nombre des déplacés est passé, quant à lui, de 3 000 à plus de 7 000. Freeman Sipila.
Le pays connaît un regain de tension alors que tous les 14 groupes armés qui y sévissent sont désormais dans le programme national de désarmement, appelé encore DDRR. Plusieurs régions du nord-ouest, du centre et du sud-est ont été le théâtre de violences meurtrières ces derniers jours. Plus de 130 personnes sont mortes la semaine dernière suite à des affrontements entre l'UPC, groupe armé à majorité Peul, et les anti-Balaka dans la localité d'Alindao. À Bangassou, on annonce que le bilan est lourd, mais pas de chiffres officiels. Dans la capitale Bangui, le temps monte. Faustin Archange Touadéra, président de la République.
De graves crimes ont été commis dans l'est du pays, notamment à Alindao, Bangassou et ses environs. Après des actes aussi malheureux commis récemment à Niem-Nielwa, des centrafricains sont morts à Bangassou. D'autres ont fui et sont rentrés en brousse. Des soldats de maintien de la paix, de la MINUSCA, sont morts alors qu'ils sont venus porter assistance au pays. Le tout par la volonté des hommes violents qui détiennent encore les armes. Je condamne avec la dernière énergie cet acte criminel et odieux et qui sont contraires à la volonté du peuple centrafricain.
L'indignation est aussi grande à la MINUSCA. La mission onusienne a perdu 6 casques bleus dans ces violences. Son chef, Parfait Onanga Anyanga, hausse le ton.
La force est en train de prendre toutes les dispositions qui saignent pour combattre ces ennemis de la paix de la manière la plus vigoureuse possible, sur le terrain, mais aussi sur le terrain du droit. Aucune personne qui aurait été mêlée de près ou de loin à ces horreurs ne connaîtra la paix, plus jamais. Nous poursuivrons ces personnes, nous les traquerons et un jour ou l'autre, elles feront face devant la justice internationale et nationale.
Dans le milieu politique, les réactions fusent de partout. Alexandre Ferdinand Guindé, président du Rassemblement pour la République, appelle le président centrafricain à plus de responsabilités.
Notre pays traverse une période très difficile en ce moment sur le plan sécuritaire. Le Rassemblement pour la République, en tant que parti d'opposition, de faire une proposition au président de la République qui touche les volets sécuritaires et sociopolitiques. Nous proposons que le chef de l'État accélère le processus du dialogue politique en vue.
L'association Coalition pour la Cour pénale spéciale, une organisation de la société civile, exige la justice pour les victimes. Fernand Mandendiapou, coordonnateur.
Nous, en tant qu'organisation de la société civile, membre de la coalition pour la Cour pénale spéciale, nous déplorons et condamnons toutes ces attaques contre la population civile ainsi que les forces onusiennes. Nous souhaitons que la justice soit rendue aux victimes. Faire justice pour les crimes graves est un impératif pour nous.
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au deuxième jour de grève dans les hôpitaux publics du Cameroun, les médecins syndicalistes dénoncent les cas d'intimidation et les pressions extérieures visant à étouffer leurs revendications. Le point sur cette situation avec Emmanuel Juntap à Yaoundé.
Mardi, à mi-journée, le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, s'est rendu à l'hôpital central de Yaoundé. Officiellement, le ministre serait venu présider une réunion de travail. Rien à voir avec la grève des médecins, selon un responsable de la structure qui a requis l'anonymat. Hier, certains médecins de cet hôpital ont été aperçus avec un brassard noir en guise d'adhésion à la grève. Et dans les services de diabétologie et de neurologie ce jour, certains médecins n'ont pas reçu les patients. Qu'est donc venu faire le ministre de la Santé publique à l'hôpital central de Yaoundé dans un contexte de grève ? Pour Dr Basson, président du syndicat des médecins du Cameroun, joint au téléphone depuis Bamenda, en zone anglophone du Cameroun, cette descente sur le terrain est loin d'être anodine.
Pourquoi tout cela? Tous ces directeurs-là ont tenu de parler au Cameroun hier matin des réunions. Pourquoi ils tiennent tous des réunions le même jour, la même heure le matin? Histoire de faire sortir les médecins de leur lit et les inviter à l'hôpital. Le gouverneur devait aller aujourd'hui à l'hôpital à la cantine de Douala. Mais on se rend compte qu'il y a des menaces. On appelle certains médecins au téléphone de la maison de venir à l'hôpital. Ils passent de service en service avec des listes et ils disent aux médecins, si tu grèves, je quitte ton nom. Si tu ne grèves pas, je quitte pas ton nom. D'ailleurs, autant d'intimidation.
Déjà, à moins 5 jours du début du mot d'ordre de grève dans les hôpitaux publics, les 3 principaux responsables du syndicat des médecins du Cameroun avaient été affectés dans les zones les plus reculées du pays sur décision du ministre de la Santé publique. Parmi eux, Dr Patrick Ndoudoumou, secrétaire général du syndicat de passage à Yaoundé.
Qu'avons-nous fait pour mériter ces affectations disciplinaires? Est-ce parce que nous avons demandé que le médecin ne touche plus 105 685 francs? Est-ce parce que nous avons demandé que les médecins ne soient plus affectés sans salaire? Est-ce parce que nous avons demandé de maintenir les médecins plus longtemps en fonction de passer l'âge de la retraite de 55 à 65 ans? Ou alors est-ce parce que nous avons dit l'assurance maladie, c'est urgent. Ça devient urgent parce que les Camerounais meurent tous les jours dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de moyens.
Dimanche, à la veille de la grève, une intervention du président du syndicat des médecins du Cameroun sur le plateau de la chaîne de télévision privée Canal 2 International avait été annulée à la dernière minute. Nos sources, bien informées et sous anonymat dans cette chaîne, recusent cette version des faits et parlent plutôt de pression extérieure visant à étouffer la grève des médecins au Cameroun. Pour sa part, le gouvernement camerounais maintient que le syndicat qui appelle à la grève des médecins dans les hôpitaux publics est illégal. Yaoundé, Emmanuel Jolountap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
L'énergie solaire continue de gagner du terrain en Afrique, l'un des continents les plus ensoleillés, un avantage de taille. Les panneaux solaires sont d'une installation facile, contrairement aux centrales électriques et lignes haute tension, qui coûtent cher et prennent du temps. Le point avec Lionel Gahima.
Le Kenya figure parmi les pays africains misant sur le solaire pour assurer son indépendance énergétique. Les panneaux voltaïques sont visibles partout, sur les maisons, les centres commerciaux et exploitations agricoles. La situation géographique du pays constitue un atout majeur, estime Ernest Chitechi du Centre climatique d'innovation de Nairobi.
Le Kenya lying on the equator has some of the best solar insulation in the globe.
À cheval sur l'équateur, le Kenya jouit d'un des meilleurs taux d'insolation au monde avec un potentiel de 4,5 kWh, ce qui est excellent. Et si cette énergie est bien captée, cela aiderait à stabiliser notre réseau électrique, en particulier dans la journée. Dans cette optique, les autorités kényanes ont imposé à partir de 2012 l'installation de chauffe-eau solaire dans tout bâtiment dont les occupants utilisent plus de 100 litres d'eau chaude par jour, explique Alvinder Gataora de la compagnie de construction métallique Steelstone Kenya. Chacun veille à l'installation de l'énergie solaire au moment de la construction de l'immeuble. Cela profite aux compagnies d'énergie solaire qui, à leur tour, nous donnent plus de travail. Madame Ruth Wairimu, habitante du complexe résidentiel de Green Park de Nairobi, assure que le concours de l'énergie solaire réduit nettement ses factures d'électricité.
Nous avons de l'eau chaude toute la journée et même la nuit selon le niveau d'utilisation, si bien que nous n'avons pas besoin d'utiliser l'électricité.
Dans les champs, les panneaux solaires opèrent à merveille, actionnant des pompes qui refoulent l'eau vers les réservoirs d'irrigation, se rejouit l'agriculteur John Mutugi. Avant, j'avais des problèmes d'eau, mais plus maintenant. Avant, j'utilisais une pompe et je n'avais jamais une bonne récolte. Depuis que j'ai fait installer le système solaire, j'exporte de janvier à décembre. L'engouement pour le solaire va croissant en Afrique, mais le coût des panneaux photovoltaïques reste encore hors de portée de l'Africain moyen. Les autorités kényanes comptent bientôt lancer un projet de 150 millions de dollars pour aider les communautés locales à installer des panneaux solaires sur les marchés, les écoles, les commerces et les maisons dans les zones éloignées du réseau électrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your then ride it. So gone and get to clapping. Go pop a phone, pad, pop it for me. Turn around and drop it for a pad, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Coolio served that scampi. You got it if you want it. Got
got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it.
Ah oui, vous pouvez vous imaginer, c'est Michel Joseph qui assure la mise en onde. Bruno Max, that's what I like. Et en te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. C'est la fin de cette édition. À la console, Wagner Robert, à la présentation, Eric Manilakidza. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Portez-vous bien. À bientôt.
Promise that you